Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service. Ta team en poucou.
Okapi.
Chers auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue dans Okapi Service, votre magazine qui traite les questions de la vie au quotidien. Comment gérer les eaux pluviales des zones urbaines de la RDC? Nous débattons de ces sujets avec ingénieur Michel Ouyumbu. Il est président de la Corporation des ingénieurs BTP. Bonjour ingénieur et merci d'avoir répondu à l'invitation d'Okapi Service.
Bonjour.
Deuxième invité, il est au bout des fils, il s'appelle Fiston Ilangi, il est urbaniste. Bonjour monsieur Fiston.
Bonjour monsieur Tati, bonjour à mon vieux, le président Michel, et bonjour à tous nos auditeurs.
Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-63-94 par SMS. Envoyez-nous vos questions, suggestions et commentaires au numéro 081-711-50-01. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service et dans les courriels dénommés service@radiokapi.net. Tati Mapoukou, c'est moi qui présente ces numéros sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Marcel Ngombo réalise et coordonne cette émission. Jérôme Nyangassa s'occupe de la prise de son. Toute l'équipe vous souhaite une très bonne condition d'écoute de ces numéros d'Okapi Service.
Radio Okapi débarque à Kananga la semaine du 24 octobre 2022 pour une série d'émissions grand public. Au menu, paroles aux auditeurs, dialogue entre Congolais, Bana Okapi, ainsi que du live Facebook au complexe scolaire La Reconnaissance. Parmi les thèmes qui seront abordés, il y a évaluation des 100 jours du gouvernement provincial, travaux du barrage de chute Katende pour électrifier la province du Kasaï central, où on en est après le dernier passage du président de la République en décembre 2021, construction de la route de Kalambambouji, reliant le Kasaï central à la province de Lunda, Norte en Angola, à quand le début des travaux? Quid de l'indemnisation des victimes du phénomène Kamuina Nsapu? Même la tribune de la presse sera produite sur place avec les journalistes de Kananga. Radio Okapi, en direct de Kananga au Kasaï central, pour nous rapprocher davantage de nos auditeurs et internautes avec nos émissions Paroles aux auditeurs, Dialogue entre Congolais et la radio Bana Okapi.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix. Comment gérer les eaux pluviales des zones urbaines de la RDC? La mauvaise gestion des eaux de pluie constitue une menace pour la population de plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa, selon les communiqués de Greenpeace publiés le 26 octobre dernier. Aucune ville de la RDC n'est épargnée par les ruissellements anarchiques des eaux de pluie, d'après plusieurs observateurs. À Kinshasa, par exemple, lorsqu'il pleut, presque toutes les grandes artères se retrouvent sous les eaux. Selon les données de la Metelsat, les pluies qui vont s'abattre dans les prochains jours pourront occasionner des inondations et des érosions dans plusieurs parties de la ville de Kinshasa. Et comment alors gérer les eaux pluviales au fait dans les zones urbaines de la RDC, spécialement à Kinshasa? Nous en parlons avec nos deux invités. Ingénieur Michel Ouyumbu, vous partagez ce constat qu'après chaque pluie, là, la ville de Kinshasa est sous les eaux.
Oui, bien sûr que tout le monde qui vit dans cette ville, pas seulement la ville de Kinshasa, mais dans toutes les villes
des Congolais, c'est presque la même photo.
Nous avons les mêmes dénominateurs communs. C'est le résultat, évidemment, d'une gestion catastrophique du développement urbain. Vous savez, quand vous... Vous vous engagez dans le développement urbain, il y a des principes fondamentaux qui régissent le développement d'une ville. Mmh. Vous ne pouvez pas échapper et penser vous en tirer correctement. Donc il y a des conséquences tôt ou tard qui viendront vous démontrer que, évidemment, il y a ces points sur lesquels vous ne vous y penchez pas. Donc, nous avons, malheureusement, nous n'avons presque pas de politique en matière de développement urbain. Et cela englobe aussi et les différents référentiels dont nous avons besoin pour développer nos villes et la mise en œuvre de ces référentiels-là. Vous ne pouvez pas continuer à développer une ville sans que vous pensiez, par exemple, à l'habitat d'une manière générale, sans que vous pensiez à la circulation dans une ville, sans que vous pensiez à
l'évacuation des eaux usées, par exemple, aussi.
Non, d'abord à l'approvisionnement en eau potable, puis à l'évacuation des eaux usées. Donc, le majeur problème des villes, ou le majeur défi des villes, sont en RD Congo, et des problèmes pour lesquels je suis très étonné de voir que les gens ne s'intéressent même pas. Je n'ai jamais vu, dans une politique gouvernementale, un journaliste poser la question à un premier ministre: monsieur le premier ministre, quelle est votre politique en matière de la gestion urbaine? Quelle est votre politique de développement urbain? Donc, nous continuons à laisser nos villes se développer sans les principes directeurs qui régissent le développement des villes. Ce que nous constatons, ce n'est que si vous y allez dans les déchets, là, quelles sont nos politiques en matière de collecte, d'évacuation et de traitement des déchets solides? Et parce que les eaux pluviales font partie des déchets liquides avec les eaux usées. Donc, nous n'avons pas du tout de politique, nous n'avons pas du tout une planification à la matière. Eh bien, et nous payons le résultat de nos propres turpitudes.
Fiston Ilangi, vous êtes urbaniste. Partagez-vous les constats que vient de faire le président Michel Ouyumbu des ingénieurs BTP?
Je salue l'intervention, l'analyse pertinente de mon aîné, l'ingénieur Michel. Je pense que, monsieur le journaliste, c'est presque chaque année qu'on revient sur le même diagnostic, qu'on revient avec des suggestions, mais malheureusement, de l'autre côté, de la part des autorités compétentes, elles ne font pas un effort pour saisir tout ce que les experts sont en train de dire pour remédier complètement aux différents problèmes urbains congolais. Monsieur Michel venait de relever cet aspect des choses. Les inondations ainsi de suite, personnellement, ça ne me surprend pas. C'est tout simplement sur le reflet de l'absence d'une gouvernance urbaine dans ce pays. C'est le reflet du désordre. C'est le reflet de la faible politique de notre pays en matière d'urbanisme, en matière d'assainissement. Vous savez, lorsqu'on conçoit une ville, on pense à la viabilisation de ces sites avant l'occupation. Mais contrairement, dans les villes congolaises, vous allez constater que les gens occupent d'abord un site et la viabilisation vient après. Parfois aussi, ça ne viendra même pas. Donc, l'occupation dévance la planification. Or, ça ne devrait pas se faire de cette façon.
Oui, mais Fiston, s'il vous plaît, mais si nous prenons par exemple les cas des anciennes communes, la commune de Kinshasa, de Lingwala, sont d'anciennes communes qui étaient urbanisées par des Belges. À Lemba également, il y a des canaux de ruissellement des eaux usées. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en train de déplorer ces constats malheureux des inondations à chaque précipitation? Même s'il pleut un tout petit peu, presque beaucoup de quartiers là se retrouvent dans les eaux.
Monsieur le journaliste, les villes sont dynamiques. Les communes sont dynamiques. Les quartiers également sont dynamiques. C'est pour dire que les caniveaux, les égouts, le plan des communes doivent suivre ces dynamismes urbains. Les Belges sont partis. Les Belges nous avaient laissé avec un coefficient d'occupation de sol qui était faible par rapport à la situation actuelle. Et c'est en fonction de ça qu'on avait dimensionné les caniveaux. Mais les Belges sont partis avec le phénomène des morcellements, avec l'occupation, la densification dans la parcelle. Les gens ne tiennent pas compte de cet aspect des choses, parce que les caniveaux qui étaient dimensionnés, c'était par rapport à une quantité d'eau à évacuer. Mais aujourd'hui, avec l'occupation totale de nos parcelles, avec les morcellements, les constructions anarchiques, il se fait qu'on déverse beaucoup d'eau dans les caniveaux existants, alors que ces caniveaux, ces dimensionnements de ces caniveaux n'avaient pas tenu compte de ces débits d'eau à évacuer. C'est ça aussi le problème. Donc, la quantité d'eau à évacuer a augmenté, mais le dimensionnement des caniveaux sont restés statiques. Autre problème, les comportements des Quinois également. On peut assister dans des communes où il y a des caniveaux et ainsi de suite, des égouts, si vous voulez bien, des collecteurs, le rivière, mais vous allez voir, ce sont le Quinois eux-mêmes, quelqu'un qui quitte chez lui, parce qu'il le plaît, il déverse le déchet dans les caniveaux. Quelqu'un qui se permet à acheter, à construire sur les lits majeurs d'une rivière. Or, ces emprises sont toujours frappées d'une servitude non édificante. Et l'État est là en train d'observer. Il observe ce que les spoliateurs sont en train de faire. Il observe ce que les éco-naïfs sont en train de faire. Au lieu de sanctionner, au lieu de punir sévèrement. Donc, le problème est à ce niveau-là. L'incivisme de la part des Quinois. Et puis, il y a aussi un déficit, il faut le dire, il y a un déficit en matière d'infrastructure d'assainissement. Il y a des communes, il y a des quartiers où on assiste, il n'y a pas de caniveaux, il n'y a pas d'égouts, il n'y a pas de collecteurs. Vous imaginez? Alors, lorsqu'il pleut, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Le développement d'une ville se repose sur un plan d'urbanisme, sur un schéma qui doit permettre que la ville puisse se développer rationnellement. La ville de Kinshasa a un plan local d'urbanisme depuis 2015, SOSAC. Mais posez la question au gouverneur de la ville de Kinshasa. Pourquoi ce plan souffre pour son effectivité? Les experts ont analysé, les experts avaient diagnostiqué la ville de Kinshasa et ils ont administré de prescriptions urbanistiques pour guérir la ville de Kinshasa. Alors, ils ont schématisé les options, les prescriptions urbanistiques sur un schéma, sur un document qu'on appelle le plan d'urbanisme, qui est SOSAC. Mais les dirigeants ne veulent pas appliquer cela. Mais ce sont toujours les mêmes personnes qui continuent toujours à se plaindre. Ah, voilà, mais or, ils ont des réponses dans leur tiroir, mais ils n'arrivent pas à appliquer cela. Qu'est-ce qui se passe? Problème de la volonté politique? Ou bien c'est de l'ignorance tout simplement. Je suis désolé.
Ingénieur Michel Oyumbu, je rappelle que vous êtes le président des ingénieurs BTP. Est-ce que le boom immobilier, parce qu'il y a des immeubles qui poussent partout à travers la ville de Kinshasa par exemple, même quand vous allez à Goma, il y a des nouvelles constructions qui poussent comme des champignons. Est-ce que ces ouvrages ne corroborent pas avec les réseaux d'assainissement, les réseaux d'évacuation des eaux pluviales?
Oui, mais il y a un autre problème parce que vous savez, si vous voulez avoir une très bonne gestion urbaine des eaux, parce qu'évidemment, dans une zone urbaine, le problème, c'est l'imperméabilisation du sol. Vous allez construire des ouvrages et qui vont faire en sorte que les surfaces imperméables vont être réduites. Alors, si vous voulez avoir la maîtrise ou la gestion correcte des eaux urbaines, vous devez maîtriser ce qu'on appelle l'occupation de ce sol-là. Parce que plus vous occupez le sol, plus évidemment, vous aurez beaucoup d'eau qui vont ruisseler, avec comme conséquence, beaucoup de volume d'eau que vous devez drainer.
Oui.
Donc, il y a un premier paramètre que vous devez maîtriser, donc, c'est le taux d'occupation du sol. Malheureusement, chez nous, il n'y a aucune réglementation en matière de taux d'occupation du sol. Dès que j'ai acheté ma parcelle de 20 mètres sur 20 mètres, je peux construire des maisons partout, sans laisser un mètre carré, par lesquels les eaux peuvent
faciliter l'infiltration des eaux.
Absolument. Ça, c'est le premier paramètre. Le deuxième paramètre, ce sont les données pluviales que vous devez maîtriser. Parce que les données pluviales sont tellement importantes, parce que c'est en fonction d'une certaine pluie que vous allez pouvoir dimensionner les ouvrages d'assainissement. Donc, et là aussi, il y a beaucoup de choses à dire, parce que une ville de Kinshasa qui compte à peu près un peu plus de 9000 km² n'a que quelques stations météorologiques. Il n'y a que quelques stations. Je crois qu'il y en a 3 ou 4. À Metelsat et à Delvaux, il y a une station.
Et les données pluviales sont variables d'une saison à une autre, d'une période à une autre.
Pas seulement d'une saison à une autre, mais d'un quartier à un autre quartier.
Oui.
Ce qui signifie que si vous voulez avoir la maîtrise des données pluviométriques, vous devez avoir un grand nombre de stations par lesquelles vous pouvez évaluer
la quantité,
évaluer la hauteur. Évidemment, la hauteur d'eau pendant la période de pluie. Malheureusement, en matière de données pluviométriques, nous n'avons pas assez de stations dans lesquelles nous pouvons avoir la maîtrise globale sur 9000 km² de compte de la ville de Kinshasa. Je crois qu'il y a 3 ou 4 stations météo. Ce qui n'est pas normal pour une ville de cette grande superficie. Donc, quand vous n'avez pas la vraie maîtrise des données pluviométriques, d'une part, quand vous n'avez pas la vraie maîtrise de taux d'occupation du sol, d'autre part, et quand vous n'avez pas non plus la gestion rationnelle et la maintenance de paix des réseaux et isolés que vous avez. Conséquence, c'est ce que nous sommes en train d'observer. L'urbaniste Fistola l'a tantôt évoqué. Mmh. Et il a parlé de vieux quartiers, de quartiers urbanisés à l'époque, pour lesquels aujourd'hui, c'est le dimensionnement de ces ouvrages d'assainissement. Et les paramètres qui ont été pris en compte pour dimensionner à l'époque coloniale
ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Pas du tout, parce qu'il y a des nouvelles constructions qui se sont ajoutées.
Absolument. Mmh. Nous avons fait l'élargissement du boulevard. Et nous avons imperméabilisé encore une certaine zone, alors qu'avant, le boulevard n'avait pas la taille qu'il avait aujourd'hui. Et nous n'avons pas non plus adapté les ouvrages d'assainissement face à de nouvelles constructions et face à de nouvelles données. Et il faut évoquer aussi, M. Tati, la donnée majeure actuellement, c'est ce qu'on appelle les changements climatiques. Donc, cette donnée majeure que les changements climatiques nous amènent un peu plus de volume d'eau maintenant qui n'ont jamais été pris en compte lors des dimensionnements de quelques réseaux isolés.
Il faut suivre ces mouvements aussi, la dynamique de cette réalité-là.
Mais évidemment, c'est-à-dire que dans d'autres villes, je parlerai d'une ville sud-américaine pour lesquelles des études ont été commandées pour voir si les réseaux d'égouts qui a été dimensionné il y a des centaines d'années peuvent s'adapter correctement
aux réalités actuelles.
Mmh. Et dans les cas contraires, quelles sont les prescriptions qu'il faut pour que les réseaux soient fonctionnels. Et ce genre d'études sont financées par les gouvernements de leur pays, et ce qui fait que on essaie d'adapter le réseau par rapport à elle. Donc il y a beaucoup de paramètres qui interviennent en cas des inondations, de la gestion urbaine des eaux, malheureusement. Et sur l'ensemble de ces paramètres-là, nous n'avons presque pas la maîtrise d'un seul paramètre. Donc, si nous continuons à laisser les choses évoluer de cette manière-là, les conséquences seront peut-être très néfastes dans les années à venir.
Elles le sont déjà, parce que lorsqu'il pleut, la ville, c'est difficile de se mouvoir dans la ville de Kinshasa, c'est très difficile.
Mais elles seront encore plus néfastes si aucune action n'est entreprise maintenant, si on ne planifie pas les choses correctement maintenant, si on n'adapte pas le réseau aux données actuelles, ou les quelques morceaux de réseau. Je ne parle pas du réseau parce que la ville, d'une manière globale, n'a pas de réseau. Sinon, quand je vais en Passa, je ne trouverai pas un réseau d'assainissement. Si je vais à Kinshasa, je n'en trouverai pas. À Lemba Umbu, il n'y en a même pas. À Selemba, je ne crois pas qu'il y en a. Donc, nous avons une grande ville et la gestion des eaux doit se faire d'une manière partielle. En y allant, bassin versant par bassin versant, et jusqu'à ce que nous puissions dimensionner un réseau global de la ville, il faut peut-être le souligner que c'est un travail qui prendra un peu plus du temps, qui est coûteux, mais il y a moyen, avec toute la volonté, d'y aller progressivement, jusqu'à ce que, en commençant évidemment par les zones les plus vulnérables, et jusqu'à résoudre le problème d'une manière globale.
Je reviens vers vous, mes invités, donc les temps pour nous de donner la parole aux auditeurs qui attendent, ils sont nombreux. Comment gérer les eaux pluviales des zones urbaines de la RDC? Nous en parlons dans cette première tranche d'Okapi Service. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-63-94 par SMS. Nous attendons vos questions, témoignages et préoccupations au numéro 081-711-50-01. C'est aussi possible de nous laisser vos commentaires sur la page Facebook d'Okapi Service et par le courriel dénommé service@radiokapi.net.
Vous nous écoutez déjà en FM et sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal+, au canal 572 pour Radio Okapi et au canal 573 pour Radio Okapi Enfant. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Okapi. Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Monsieur Malonga, vous intervenez depuis la ville de Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour Tati, bonjour à nos invités et à tous ceux qui nous suivent.
Comment gérer les eaux pluviales des zones urbaines de la RDC? Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport à ces sujets?
Oui, la question, la réponse directe est là, l'OVD là. Bon, qu'est-ce que l'OVD pour préparer ces dégâts? Vous voyez, la saison sèche à presque 5 mois. Bon, dans 5 mois là, nous restons comme ça, il y a un service propre à préparer cette saison de la pluie. Mais ces agents restent comme ça, inactifs, et on attend seulement cette période pour déclarer ah, ceci, cela, il y a ceci, il y a ceci, cela. Alors, qu'est-ce l'OVD? L'OVD, c'est quoi? Moi, je suis dans la commune de Kinshasa. En tout cas, Tati, le jour où la pluie a tombé, vraiment, nous étions renfermés, nous étions tous en mouvement pour puiser de l'eau et le faire sortir à l'extérieur. Au moment où nous puissions, toute l'avenue était pleine. Nous puissions et ça rentrait encore. Alors, les avenues se sont transformées en des poubelles. Si les eaux tombent, ils trouvent ces saletés là-bas. Il n'y a pas moyen de l'eau de pluie coule facilement. Alors, c'est ce que je me demande. Et c'est la réponse de nos thématiques. L'OVD là, l'État a été bien préparé pour faire cela. Oui, l'invité a commenté à cela, mais il faut condamner seulement les agents de l'OVD, les agents propres aussi de l'environnement. L'assainissement. À la période où nous cohésions, nous voyons les agents de l'environnement entre parcelle par parcelle. Il y avait une visite parcellaire. Mais aujourd'hui, qui ne se fait pas? Si on trouve devant votre porte le canal est bouché, vous devez payer l'amende. Et ces paroles, la population craignait. Et les canaux, c'était vraiment libre. Et à la période de la pluie, si il pluie, il peut y avoir seulement une petite menace. Et après quelques minutes, ça va s'évacuer. Mais toutes les terrasses sont fermées. Elles sont bouchées, s'il vous plaît. Alors, il y a les services propres pour déboucher cela. Alors, en tout cas, ça, il faut... Même le Premier ministre, même le Président, il peut limoger tout ça. Et puis, pour réformer la situation et préparer la situation comme il doit se faire étatif.
Merci beaucoup, M. Malonga. Je rappelle que vous intervenez depuis la ville de Kinshasa et dans la commune de Kinshasa. Et vous, donc la responsabilité revient à l'OVD qui ne fait pas bien son boulot, c'est ça? Ainsi qu'aux services, aux différents services de l'assainissement.
Oui. Tati, encore, je peux vous informer encore.
Moi, allez-y rapidement parce qu'il y a d'autres auditeurs qui attendent, s'il vous plaît.
Ok, merci. Je suis ici à Kinshasa. Je suis de Bandundu. On vient de m'informer, cette pluie-là a apporté ma toilette de l'extérieur. Aujourd'hui, comme ça, la parcelle n'a pas de toilette. On veut utiliser seulement de l'intérieur. Qu'est-ce que ça? Hein? L'eau de ruissellement, les torrents-là a apporté la toilette. Vous voyez? Puisque les terrasses est bouché, l'eau est venue avec une espèce dans la parcelle et puis a apporté tout ça. Ça vraiment, est-ce que j'ai pu accuser qui? J'ai pu accuser l'OVD.
Merci beaucoup, Monsieur Malonga. Je rappelle que c'est depuis la ville de Kine que vous intervenez. Cette fois-ci, allons à Kikwit pour donner la parole à Godet. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à la radio Capi.
Monsieur Godet, quel est le constat qui se dégage à chaque précipitation au niveau de la ville de Kikwit?
Comme si l'émission attendait que la pluie puisse pleuvoir demain. C'était hier, plutôt de 7h à 14h dans la ville de Kikwit. Monsieur le journaliste, il y a un an, ça ne va pas. Au moment que je vous parle, moi, je n'ai pas parti au service. Je suis en train de déménager ma maison. Il y a un an, ça ne va pas. Le problème, c'est quoi? Je ne sais pas. Je ne sais pas si les pots de Belges sont arrêtés pour canaliser de l'eau dans des milieux ruraux. Je ne sais pas ici, à l'époque du Congo, où se trouvent ces jeunes gens-là. Ici, dans 4 communes de la ville de Kikwit, nous sommes devenus donc enclavés. Enclavés, s'il vous plaît, monsieur le journaliste. Pas moyen d'atteindre d'autres communes, d'Enjinda, communes de Lukolula. Il y a toujours l'enclavement. Vraiment, au moment que je vous parle, l'OVD dans la ville de Kikwit ne fait absolument rien. Moi, je condamne les deux services. Premièrement, c'est l'OVD et les services des cadastres. Les cadastres, quand il va aller mesurer des parterres dans des cités nouveaux, mais il ne compte pas, il n'était pas compte de canaliser l'avenir pour canaliser l'eau jusqu'à la rivière. Non, il compte seulement de vendre leurs parcelles et il prend l'argent, il met dans la poche. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans des grands ravins dans la ville de Kikwit. dans des canines, Vaudo, nous sommes enclavés avec d'autres communes, donc il y a une, ça ne va pas. Aujourd'hui que vous parlez, il y a plus de morts d'hommes dans la pluie d'hier. Il y a les gens qui sont décédés à cause des canaux d'eau. Il n'y en a pas. L'OVD ne fait absolument rien. Il demande que le gouvernement ne finisse pas l'argent. Les cadastres. Et il va dans les quartiers nouveaux, par exemple, à Discute 4. Il va des parcelles. Il ne tient pas compte donc des canaux d'eau. Il ne tient pas compte à ça. Il compte seulement par leur propre argent. Il met à la poche, il s'en est avec. Mais il ne tient pas compte que je vous propose. Je vais vous prophétiser avant. Quand nous devons arriver vers les années 2030, la ville de Gécoute sera toujours. Donc nous devons retourner dans notre village. Parce qu'il y a autant de ravins, pas moyen de parler, monsieur le journaliste. Je ne sais pas si l'OVD de Gécoute existe ou n'existe pas. Je ne sais pas si les services de l'environnement existent ou ça n'existe pas. Il n'y a pas moyen de vivre dans la ville de Gécoute. Il y a plus de 150 000 ravins dans la ville urbaine de Gécoute. Comment nous devons vivre, monsieur le journaliste? Il n'y a pas moyen. Alors je demanderai au gouvernement de voir vraiment la situation de l'OVD de Gécoute et de chercher un moyen de faire tous ces canaux d'eau jusqu'à la rivière Pirou. Puisque ici, ça ne va pas. Les maisons sont écroulées, on commence à transporter les gens par les dos jusqu'à la ville basse, donc il n'y a pas moyen de vivre. Je ne sais pas si d'ici 2030, nous devons retourner dans notre village natal. La ville risque de détruire. Mais que dit le gouvernement, monsieur le journaliste?
Merci beaucoup, monsieur Godet. Monsieur Godet, merci beaucoup. Je rappelle que c'est depuis la ville de Kikwit que vous intervenez. Vous avez fait un constat très alarmant. Les invités auront à réagir par rapport à votre témoignage. Serge, vous êtes à Kindu. Bonjour.
Oui, c'est Serge King à Kindu. Bonjour et bonjour aussi à l'invité.
Oui, monsieur King, dites-nous, quel est le constat qui se dégage à Kindu après la pluie?
En tout cas, c'est terrible. Et c'est là... Je ne peux pas premièrement condamner le gouvernement provincial ou national. Je dois d'abord condamner nous, la population. Nous sommes à la base de nous-mêmes par rapport aux conséquences qui arrivent et après on commence à condamner l'État congolais. Il y avait l'inondation ici, monsieur le journaliste, au niveau du fleuve Congo. Je vous assure, c'était extrêmement terrible. Et là, le gouverneur avait dit à la population environnante de cette partie-là de dégager. Il a même disponibilisé les moyens en les donnant des parcelles dans d'autres sièges. Mais juste après, lorsqu'ils puissent être tarés, ils ont retourné en même lieu. Mais quelques années ou quelques mois plus tard, l'inondation a repris encore sa forme. Et c'était terrible. Il y a même des maisons qui coulaient. Bon, des conséquences nous sont arrivées à nous-mêmes. Mais sinon, quand cela les tient, nous sommes en mesure de trouver quand même quelques pistes de solutions. Alors, j'aimerais demander à mon invité qui est là au niveau du plateau.
Oui.
Je ne sais pas s'il est en train de m'écouter ou soit vous pouvez lui donner le téléphone pour que je lui pose ne juste que des petites trois questions.
Non, il est en train de vous suivre. Allez-y rapidement. Il vous écoute. Voilà. Religieusement.
Quels sont les ouvrages de l'assainissement qui peut nous aider à faciliter, à dégager un peu l'eau plus rapidement lorsque l'eau nous arrive même à entrer dans nos maisons? Je vous assure, dans nos maisons. Et comment faire un drainage pour une eau de pluie qui s'est fait, qui vient plus vite dans nos milieux où nous résidons. Alors, ma deuxième question, quels sont les ouvrages de drainage? Merci beaucoup, je suis très satisfait avec le sujet du jour.
Merci beaucoup Serge, je rappelle que c'est depuis la ville de Kindu que vous intervenez. Il y a un autre auditeur qui s'est ajouté, Maître Gaston, lui il est à Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
Allez-y rapidement. Allez-y rapidement.
Ouais, bon, mais j'allais dire ceci. Vous savez, le problème de chercher à protéger ce qui est l'eau pendant les saisons de pluie, inonde, c'est pas une question de traiter au niveau que vous voulez traiter. Et moi, je pense que il y a les endroits qui sont pas lotis par l'État, et surtout ces endroits-là, qui sont vite à réparer des difficultés où on voit des avenirs. Comme là, je suis à l'avenue Maïndombe. Vous connaissez l'avenue Maïndombe?
Pas du tout. C'est dans quel quartier?
Dans le quartier Kintsuka.
Hein? À Kintsuka Pêcheur.
Oui, oui. Même là, il y a même la maison civile. En bas, là-bas, c'est un quartier, c'est un endroit où Maman Tété de ce qu'ils suivent. Mais les gens ont habité là-bas. C'est surtout ces gens-là qui habitent les endroits où, stratégiquement, par rapport à la cartographie de la ville, on n'a pas voulu que les maisons soient construites. Mais par rapport à l'anarchie que nous vivons actuellement, les maisons sont construites et il se fait qu'il y a des endroits où les gens partent louer, comme je dis là, mais qui sont inondés à tout moment pendant la saison des pluies. Pendant la saison sèche, ils essaient un peu de vivre, mais c'est pas bon. Et dans des endroits où on n'a pas, par rapport à la cartographie, par rapport à, je dis, soit les je sais pas quoi, on a décidé que ça ne soit pas loti. Que ça soit loti par les chefs coutumiers, c'est ce qui pose beaucoup de problèmes actuellement. Mais ce qui est vrai, avec la pluie qui a surgi tardivement qui s'est fait ici, il y a des endroits comme nous connaissons d'habitude qui sont inondés pour le moment, qui en quelque sorte sont en difficulté parce qu'ils vivent ce que la pluie pouvait faire. Dans tout ça, l'État devrait prendre ses responsabilités, à mon avis.
Merci beaucoup, Maître Gaston. Je rappelle que c'est depuis la ville de Kinshasa, à Kinshuka spécialement, que vous intervenez. Ingénieur Michel Malonga de Kinshasa responsabilise au fait l'OVD parce que c'est l'office des voiries et drainages du pays, l'office habilité à faire le boulot comme il se devait.
Bon, je ne sais pas si à ce niveau on peut affirmer gratuitement comme ça que c'est tel service qui est responsable, dans la mesure où ce sont des politiques publiques qui doivent être définies et que des moyens de l'État doivent être accompagnés pour que sa politique publique soit mise en œuvre. Et il faudrait noter, sans que je cherche à dédouaner qui que ce soit, que l'Office de voirie et drainage est un établissement public qui ne peut rien faire sans que les moyens lui soient donnés pour qu'il exécute ses politiques publiques qui sont définies à l'avance.
Parce que l'OVD aussi, nous devons le préciser, il a des techniciens et des spécialistes dans les domaines de la voirie et drainage.
Certainement.
Ils ont des compétences là-dessus.
Il y a toutes les compétences nécessaires, mais l'Office lui-même n'a pas le moyen pour définir. Ce n'est pas l'Office qui définit les politiques d'assainissement, ce sont les politiques du gouvernement. Et l'Office ne fait que la mise en œuvre de ces politiques d'assainissement par rapport aux moyens qui sont mis à sa disposition. Donc, ça veut dire que c'est en amont qu'il faut voir le problème. Est-ce qu'il y a-t-il eu de politiques qui ont été définies et de moyens qui ont été
qui ont accompagné
ces politiques-là pour qu'on dise que c'était l'office qui est responsable. Donc, c'est comme ça que nous analysons les problèmes. Mais il faut revenir à la logique des faits. Ça veut dire il faut réglementer de manière à ce que chaque nouveau quartier qui est d'abord la viabilisation, c'est-à-dire qu'il y a d'abord la construction de tous les ouvrages d'assainissement dont on a besoin pour la gestion urbaine avant qu'il y ait la construction des habitats individuels. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Cela n'a jamais été le cas chez nous. Donc, d'une part, nous continuons à développer de nouveaux quartiers sans aucune viabilisation. L'urbaniste Fiston en a parlé. D'autre part, les anciens quartiers développés à l'époque belge, où il y a quelques ouvrages d'assainissement, nous laissons ces ouvrages à l'abandon. Ces ouvrages ne sont pas entretenus.
À certains endroits, il n'existe plus d'ailleurs. C'est équipé par des maisons.
À certains endroits, il y a un endroit pathétique, c'est au niveau de rond-point Ezo à Kinshasa, où nous voyons une grande école privée construit au-dessus d'un collecteur.
Oui.
Cette école est là depuis des années. Le gouverneur passe, le ministre passe, et cette école est restée là.
Et à chaque saison de pluie, dans cet endroit-là, il y a toujours les eaux en permanence. Et
absolument.
L'eau,
à chaque,
de l'eau usée.
Chaque voilà. année, chaque saison, nous avons des problèmes à cet endroit-là.
Sur la chaussée et sur les maisons
spécifiquement, qui sont à cause de ce désordre-là. Cela n'est qu'une goutte d'eau et cela n'est que la face visible de l'iceberg. Mais c'est beaucoup plus profond parce que si vous y allez partout, même au niveau du centre-ville, vous trouverez des gens qui ont construit sur les collecteurs, sur les lits majeurs de rivière. Donc, de ce côté-là, il y a un abandon total où il n'y a aucun mécanisme de contrôle qui est mis en place pour empêcher que le peu d'ouvrages que nous avons soit d'abord un entretenu et que le peu d'ouvrages que nous avons fonctionne correctement. Donc, au lieu d'envisager, par exemple, dans un premier temps, de redimensionner les ouvrages qui existaient et de construire de nouveaux ouvrages, nous devons commencer à protéger et entretenir le peu d'ouvrages que nous avons. Donc, ça, c'est le premier problème. On a évoqué tantôt le problème des déchets solides. Mais ça, moi, j'ai une autre vision. Si je ne suis pas d'accord que la population se débarrasse des déchets solides dans le cours d'eau, dans le caniveau, mais s'il n'y a aucune politique pour que la population se débarrasse de ces déchets solides, vous pensez que cette population va faire quoi? Elle va continuer à faire ce qu'elle fait. Parce que s'il y a une pluie et que quelqu'un chez lui, il n'a aucun déchet, il va faire quoi? Il ne va pas s'en débarrasser.
Non.
Il ne va pas chercher le moyen pour qu'il s'en débarrasse dans le caniveau qui tombe.
Ou s'il y a un endroit approprié pour ses déchets.
Voilà, s'il y a un endroit approprié pour ses déchets. Ouais. Et s'il y a un mécanisme de suivi.
D'évacuation régulière.
S'il y a un mécanisme de suivi pour les évacuer régulièrement et pour contraindre celui qui ne le fait pas des amendes, les gens vont totalement s'adapter. Donc, d'autre part, il y a une grande responsabilité au niveau des services de l'État pour définir les politiques globales, pour les appliquer et pour mettre la réglementation et la faire appliquer. Donc, un citoyen ne peut pas être au-dessus de la loi. Comment un monsieur peut venir construire au-dessus d'un collecteur et il est là calme, comme si de rien n'était, personne ne se préoccupe et on le laisse faire. Mais si on a laissé faire le voisin, que voulez-vous? Le voisin suivant va emboîter le pas et ainsi de suite.
Oui.
Et le désordre s'installe et nous crions aux conséquences de ce désordre-là. Donc, il y a moyen de travailler pour qu'on soit beaucoup plus rigoureux, qu'on ait une politique de collecte, de transport et de traitement des déchets solides, qu'on ait une politique de maintenance de paix d'ouvrage que nous avons, qu'on ait aussi une politique de redimensionnement des anciens ouvrages, on les revisite pour voir si, quel est leur taux de fonctionnalité, pour améliorer leur taux de fonctionnalité, mais d'autre part aussi, ne créons pas de nouveaux lotissements sans qu'il y ait viabilisation.
Fiston, l'auditeur de Kikwit, M. Godet, il a dressé un tableau très alarmant au niveau de la ville de Kikwit et il dit que si rien n'est fait d'ici 2030, ça sera compliqué au niveau de la ville de Kikwit parce qu'il y a des érosions qui ne cessent de pousser. Monsieur Fiston Langui,
oui,
allez-y.
Les questions urbaines intéressent presque tout le monde. Et ça donne une très très bonne impression. Et ce n'était pas aussi pour rien que l'État congolais avait demandé qu'on puisse former les urbanistes au pays. On avait formé ces urbanistes pour qu'ils puissent traiter des problèmes pareils. Parce qu'on savait déjà en amont que, étant donné que nous sommes plus colonisés, nous sommes indépendants, il faudrait avoir des spécialistes pour diagnostiquer ces problèmes, les problèmes urbains qu'on aura, et puis administrer des solutions. Donc, le problème ici tourne autour de la politique. Vous savez, à face, il n'y a rien. Par rapport aux différents problèmes qu'on a, les problèmes urbains qu'on a, nos autorités devraient normalement mettre en place des politiques cohérentes, rationnelles, clairement définies, pour faire face à ces différents problèmes. Malheureusement, il n'y en a pas. Ce n'est pas le ministre de l'urbanisme qui va me dire le contraire. S'il me dit qu'il y avait une politique en matière d'urbanisme, en matière d'assainissement, ainsi de suite, donc comprenez que l'action de cette politique sur le terrain n'est pas significative. Il y a lieu de remédier à cette situation, il y a lieu de changer un peu le paradigme. Aujourd'hui, posez la question au ministre des Affaires foncières. Depuis qu'il est là 3 ans, est-ce qu'il a déjà pris combien d'arrêtés portant lotissement dans cette ville de Kinshasa? Posez la même question au gouverneur de la ville de Kinshasa. Combien d'arrêtés portant lotissement dans la ville provinciale de Kinshasa? Mais il n'y en a pas. Mais vous constatez que le quartier naît. Les chefs coutumiers continuent à nous produire des quartiers spontanés. Et l'État est là en train d'observer. Le ministère public est là en train de voir. C'est de la complicité ou bien de l'ignorance? Donc ce sont les chefs coutumiers qui continuent à distribuer des parcelles d'une manière anarchique, des quartiers qui ne sont pas viabilisés. Et après, on va continuer à plaire. Comment se fait-il que ces gens sont là depuis très longtemps, en train de construire, anarchiquement, mais ils ne sont pas inquiétés. Mais c'est après, lorsqu'il y aura des dégâts, on dit en deuil national, on va prendre en charge, et puis on va dire, on va casser. Non, gouverneur se prévoit, on ne doit pas continuer toujours à subir les événements. Il y a lieu d'anticiper. Nous venons de traverser la saison sèche ici. Qu'est-ce qui avait empêché le gouvernement de mettre en place des stratégies préventive pour qu'on ne puisse pas assister à des situations pareilles. On devrait minimiser cela. Et pendant la saison des pluies, on devrait passer plutôt à l'évaluation des actions qu'on avait posées pendant la saison sèche. Mais curieusement, je vois le conseil de ministres de la ville-province de Kinshasa se réunir pour dire non, ben, on lève l'option, on va commencer à drainer. Est-ce que c'est vraiment le moment de commencer à faire le drainage? Pendant la saison sèche, vous étiez où? La saison des pluies, c'est la saison d'évaluation des actions préventives que vous avez menées pendant la saison sèche. Mais vous avez attendu jusqu'à ce qu'il y ait des dégâts pour dire que non, ben, on va commencer à tirer. Tout simplement pour saupoudrer les gens. Non, on doit aimer ce pays. On doit aimer notre ville. On doit changer notre comportement. Que ce soit nos dirigeants, que ce soit nos populations, de part et d'autre, nous devons changer notre façon de faire les choses. Tout le monde veut faire la politique parce qu'il y a de l'argent. Mais vous êtes politicien, vous êtes ministre, vous êtes député, ainsi de suite. Donc vous êtes incapable de produire des politiques urbaines par rapport à tout ce que nous vivons. Certes, vous restez dans ma campagne, vous ne connaissez pas des problèmes, tout ça, à Gombe. Mais pensez quand même à vos électeurs.
Oui, mais monsieur Fiston, même ma campagne, il y a aussi des problèmes, hein, des problèmes de ruissellement, des eaux usées, de toutes les façons, aucun quartier n'est épargné par ces phénomènes de nos jours. Ingénieur Michel, je rappelle que vous êtes le président des ingénieurs BTP. Serge de Kindou, il a d'abord responsabilisé la population qui a aussi une part de responsabilité sur ce qui se passe, mais en même temps, il a voulu savoir au niveau des parcelles, qu'est-ce qui doit être fait pour éviter ces genres d'être inondés par les eaux des pluies?
Merci beaucoup, Monsieur Tati. Vous savez que quand on est riverain, quand on a une parcelle, il y a ce qu'on appelle le droit fondamental des riverains. Le premier droit, c'est le droit d'accès à sa parcelle. Donc, chaque riverain a droit d'accéder à partir de la voie publique vers sa parcelle.
Oui.
Ça, c'est le premier droit. Et le deuxième droit, c'est que chaque riverain a le droit de rejeter vers les ouvrages d'assainissement public les eaux pluviales et les eaux usées de sa parcelle. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ces ouvrages doivent être disponibles. S'il n'y a pas d'ouvrage,
s'il n'existe pas, il y aura des problèmes.
S'il n'y a pas d'ouvrage, il fait quoi? C'est ainsi que, au niveau de la politique d'assainissement, il y a ce qu'on appelle les coefficients d'occupation du sol. C'est-à-dire, même si vous êtes propriétaire d'une parcelle, l'État vous dira, monsieur, sur les 400 mètres carrés que vous avez, vos maisons ne peuvent pas dépasser,
occuper
par exemple,
tout l'espace.
Non, vous ne pouvez pas dépasser, par exemple, 200 mètres carrés. Vous ne pouvez que bâtir sur les 200 mètres carrés. Les 200 autres mètres carrés, c'est des espaces que vous devez laisser vides, de manière à ce qu'en cas de pluie, qu'il y ait des infiltrations. C'est-à-dire, on essaie de limiter le volume d'eau qui sera évacué vers les ouvrages d'assainissement. Donc, c'est l'ensemble de ces politiques-là. Si elles sont planifiées, elles sont conçues, planifiées, mises en œuvre, elle donne du résultat.
Oui, mais ingénieur Michel, maintenant que ces aspects-là n'ont pas été pris en compte en amont, on est devant une situation subite. Qu'est-ce qu'on fait? Telle est la question de l'auditeur de Kindou.
Bon, présentement là, nous devons poser donc des actions concrètes. La première, c'est que il faut voir dans les zones où nous avons des morceaux de réseau, j'insiste, des morceaux de réseau dans certains quartiers, le vieux réseau que nous avons dans certains quartiers, il faut donc les entretenir, il faut les curer, évacuer tout le déchet. Un deuxième aspect, il faut qu'il y ait une politique de gestion des déchets urbains. Parce que même si nous allons curer aujourd'hui les caniveaux, et que nous allons laisser les bouteilles en plastique être jetées ça et là, n'importe comment, et qu'il n'y a aucune politique de collecte de l'ensemble de ces déchets solides, demain, ces déchets vont terminer leur course dans les caniveaux d'une manière ou d'une autre. De deux, dans les zones vulnérables où il n'existe pas de réseau d'assainissement, il faut le concevoir, il faut le mettre en œuvre. Il faut tout faire pour les construire.
Oui, nous retournons au standard pour donner la parole aux auditeurs. Si vous êtes intéressé par ces sujets, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 081-890-63-94.
Radio Capi débarque à Kananga la semaine du 24 octobre 2022 pour une série d'émissions grand public. Au menu, parole aux auditeurs, dialogue entre Congolais, Bana Okapi, ainsi que du live Facebook au complexe scolaire La Reconnaissance. Parmi les thèmes qui seront abordés, il y a évaluation des 100 jours du gouvernement provincial
Travaux du barrage de chute Kakendi pour électrifier la province du Kasaï central, où on en est après le dernier passage du président de la République en décembre 2021. Construction de la route Kalambambouji, reliant le Kasaï central à la province de Lunda, Norte en Angola. À quand le début des travaux? Quid de l'indemnisation des victimes du phénomène Kamuinansapu? Même la tribune de la presse sera produite sur place avec les journalistes de Kananga. Radio Kapi, en direct de Kananga au Kasaï central, pour nous rapprocher davantage de nos auditeurs et internautes avec nos émissions Paroles aux auditeurs, Dialogue entre Congolais et la radio Banao Kapi.
Des auditeurs au standard, nous avons monsieur Charles, il est à Lubumbashi. Charles, bonjour.
Bonjour monsieur les journalistes ainsi que aux invités.
Nous sommes coincés par les temps, allez droit au but.
Oui, en tout cas, après la pluie ici à Lubumbashi, la ville est souvent un mini lâche. En tout cas, ce sont les mêmes constats, même ici à Lubumbashi. Alors, pour ne pas diaboliser l'État congolais, moi je vois que la faute incombe à nous-mêmes, population. Parce que je me rends compte que la population à milieu irain, c'est une population qui est vraiment très petite. Permettez le terme. C'est une population qui décourage, qui n'encourage jamais l'État. Il y a des gros efforts à saluer. Mais malheureusement, vous verrez qu'après avoir évacué les immondices, une minute après, c'est toute une nouvelle montagne qui s'installe encore. Alors comment on peut évoluer dans ces cas-là? Vous verrez que la population en ville, à chaque 16h-17h, au lieu d'être en couple à la maison, mais pour constater là où que ça souhaite, mais malheureusement c'est à la prière ou bien devant la télévision. Mais au village, vous verrez que les gens se donnent quand même, les gens s'impliquent. Alors diaboliser l'État congolais à tout moment, c'est une fausse route. Il faut conscientiser la population et surtout doser la discipline envers la population habitant les milieux urbains. Voilà un peu ma façon de voir les choses, monsieur le journaliste.
Merci beaucoup, monsieur Charles. Je rappelle que c'est depuis la ville de Lubumbashi que vous intervenez. Cette fois-ci, allons en Ituri pour donner la parole à Justin. Bonjour.
Bonjour, monsieur Tati. Bonjour aux invités.
Allez-y rapidement, on n'a plus assez de temps.
Oui, merci beaucoup. Pour moi, mon avis est à partager. Hein. Et donc, d'une part, l'État, en tout cas, a une responsabilité. Et nous, la population, nous avons aussi une responsabilité du côté de l'État. Et donc, c'est comme si nous n'avons pas le ministre des Affaires foncières. Les ministres des Affaires foncières, ils sont là. Ils sont qu'une gestion. Ils ne sont pas. Ils sont. Et donc, lorsque il y a les chefs des quartiers qui sont en train de faire la vente anarchiquement de parcelles. Où est l'État? Est-ce qu'ils sont là seulement pour percevoir l'argent? Est-ce que tout cet argent sont canalisés dans le trésor public? Même moi, quant à moi, cet argent se volatilise entre les poches des gens. Et la conséquence, c'est quoi? C'est ce que nous traversons lorsqu'il y a des inondations. Ce n'est pas seulement à Kinshasa, c'est à travers le pays. Dans les différentes villes de la RDC, M. Tati. Et quant à nous, la population, vous voyez, c'est comme mon ami Charles l'a souligné là, vous voyez, lorsque nous, la population, nous ne nous prenons pas en charge, est-ce que vous voulez que le président de la République quitte Kinshasa pour venir ici à Bounia, ou bien pour venir soit à Goma ou à Lubumbashi? Nous devons être aussi sérieux. Lorsqu'il y a une évacuation du monde, nous devons aussi respecter les principes quand même. Et nous avons aussi l'habitude de jeter la saleté partout. Vous êtes à pleine ville, mais soit vous achetez des cacahuètes ou les maïs, et puis vous jetez les déchets partout. Donc nous les Congolais, nous n'avons pas encore en tout cas cet esprit d'échanger nos comportements. Merci beaucoup, monsieur Tati.
Je vous en prie, monsieur Christian. Je rappelle que c'est depuis la ville de Bounia que vous intervenez. Monsieur Fiston Ilangi, vous êtes urbaniste. Vous avez évoqué précédemment que nous avons des villes malades. Dites-nous, quelle est la thérapie des chocs du point de vue urbanistique? Qu'est-ce qui doit être fait de concret?
Merci beaucoup, monsieur Tati. Nos villes sont pathologiques. Nos villes sont dysfonctionnelles. Il faut se poser d'abord la question. Est-ce que ces villes ont de plans de développement urbain? Est-ce que ces villes ont de plans d'urbanisme? Il n'y en a pas.
Donc, comme il n'y en a pas,
il faut commencer par la mise en place des plans.
Ces villes, des schémas, d'un plan d'urbanisme pour son développement. Parce que lorsque une agglomération est élevée au statut d'une ville, automatiquement, elle est placée sous le régime d'urbanisme. Le régime de l'urbanisme, c'est le régime de l'ordre. Et là, on dit, après quelques mois, l'autorité compétente devrait tout faire pour doter cette ville d'un plan d'urbanisme. Mais ce n'est pas le cas. On a plusieurs villes maintenant, avec le démembrement, de villes sans plan d'urbanisme, de villes sans urbanistes. Vous savez, avec le décret du Premier ministre de 2013, on avait élevé certaines agglomérations au statut de ville.
Oui.
Mais aujourd'hui, la RDC compte plus de 100 villes. Au lieu des 30 et quelques, comme c'était jadis. Mmh. Mais de villes sans plan d'urbanisme, de villes sans urbanistes. Il y a même des gouverneurs de villes ici qui n'ont jamais vu un urbaniste depuis Baboutama. Donc il y a moyen qu'on puisse changer un peu les choses. L'État doit faire sa part. La population doit changer sa façon de vivre, de se comporter vis-à-vis de la ville. Et je pense que les choses vont changer. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur Fiston Ilangui. Nous rappelons que vous êtes urbaniste. Merci d'avoir été avec nous. Hein. À la prochaine occasion.
Merci.
Ingénieur Michel, on est presque à la fin de notre entretien. Quelle est la solution efficace ou quelles sont les solutions efficaces pour essayer de récupérer la situation parce que les tableaux tels qu'ils sont dressés, il est déplorable à travers les pays, dans les zones urbaines. À chaque précipitation, il y a des problèmes. Inondations, érosions, des cas de décès.
Absolument. Je vais paraphraser un peu l'urbaniste Fiston qui a dit qu'il faut que nos villes disposent d'abord des plans de leur développement. Le plan de développement urbain, ville par ville. Et il faut les élaborer. Au plan de développement urbain, il y a beaucoup d'autres plans qui doivent être dressés, comme le plan directeur d'assainissement de chaque ville, le plan directeur de transport de chaque ville, et tout ce qui vont aller avec les différents plans de développement.
En même temps, des projections aussi.
Absolument.
Parce que les villes, la démographie augmente chaque année.
Ces différents plans-là, évidemment, seront élaborés pour une durée de temps déterminée, pour 15 ans, 20 ans ou 30 ans. Mais il ne faudrait pas seulement élaborer ces différents outils, mais il faut aussi le mettre en œuvre. Nous parlons de la ville de Kinshasa, Sosak, qui dispose d'un plan de son développement, mais que personne ne tient compte. Et la ville de Kinshasa, d'ailleurs, à part le Sosak qui est le schéma d'orientation stratégique de la ville, dispose aussi d'un plan directeur des transports. Personne ne s'en occupe. Et pourtant, ces documents majeurs sont très importants pour le développement harmonieux de nos villes. Donc, il faut disposer de plans d'une part. Il faut trouver de voies et moyens pour que ces plans soient mis en œuvre. Donc, bref, il faut qu'il y ait des politiques publiques bien définies pour chaque année, pour 5 ans, pour 10 ans, pour 15 ans, pour 20 ans. Parce que si ces plans-là sont élaborés pour une durée de 20 ans, il faut qu'il y ait de politiques publiques pour que chaque année, chaque 2 ans, chaque 3 ans, chaque 5 ans, nous puissions faire l'évaluation pour voir quel est le taux de mise en œuvre des différents outils de développement que nous avons. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de la ville de Kinshasa, on peut nous donner le taux de mise en œuvre du SOSAC? On l'a mise en œuvre à quel taux? Bon, malheureusement, on arrivera à la durée pour laquelle le plan a été élaboré, et le plan aurait avorté, personne ne se serait soucié. Et il est vrai que la population a aussi sa part des choses. Mais la population doit être éduquée. La population doit être totalement soumise à la réglementation. C'est pas pour rien qu'il y a des contraventions. Mmh. C'est pas pour rien qu'il y a de cours et tribunaux.
Oui.
Si un individu se permet de construire au-dessus d'un collecteur, mais bon, évidemment, c'est parce qu'il sait que personne ne viendra lui demander des comptes. Si un voisin le fait, et qu'aujourd'hui on lui demande des comptes, et qu'il y ait de châtiments exemplaires, demain l'autre voisin ne le fera pas. Donc, et quelque part, nous laissons trop faire. Trop faire. Or, la personne ou l'autorité qui peut définir les politiques, le mettre en œuvre, le faire respecter, c'est l'État congolais.
Merci beaucoup, Monsieur Michel Ouyumbu. Je les considère comme votre dernier mot. Merci d'avoir été avec nous à la prochaine occasion parce que les sujets ont l'air inépuisables.
Merci beaucoup, Monsieur Tati.
Au revoir.
Au revoir, merci.
Radio Capi débarque à Kananga la semaine du 24 octobre 2022 pour une série d'émissions grand public. Au menu, paroles aux auditeurs, dialogue entre Congolais, Bana Okapi, ainsi que du live Facebook au complexe scolaire La Reconnaissance.
Parmi les thèmes qui seront abordés, il y a évaluation des 100 jours du gouvernement provincial, travaux du barrage de chute Kakendé pour électrifier la province du Kasaï central, où on en est après le dernier passage du président de la République en décembre 2021, construction de la route de Kalambambouji reliant le Kasaï central à la province de Lunda Norte en Angola, à quand le début des travaux, quid de l'indemnisation des victimes du phénomène Kamuinasapo. Même la tribune de la presse sera produite sur place avec les journalistes de Kananga. Radio Kapi, en direct de Kananga au Kasaï central, pour nous rapprocher davantage de nos auditeurs et internautes avec nos émissions Paroles Auditeurs, Dialogue entre Congolais et la radio Banao Kapi.